sali.
Qui est à la fois banal et un peu et puis important. C'est un peu paradoxal. Banal, c'est parce que dans la société, dans la vie professionnelle, cette chose est banalisée. Par exemple, quelqu'un qui travaille au bureau dispose des papiers, des photocopies, etc. etc. On le prend sans demander, donc quelque part, si on suit des préceptes, c'est plus ou moins folle. Donc, est-ce qu'on a le droit de prendre sans demander l'autorisation? Est-ce qu'il faut suivre les préceptes? Disons que voilà, ce qu'on ne me donne pas, c'est que ça rentre dans le vol. Et comment on faut se conduire?
Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Ne demandez pas la permission à qui que ce soit. La question n'est pas de savoir si vous avez le droit de voler ou pas. La question est de savoir le bénéfice que ça peut vous apporter. Si vous pensez que c'est bénéfique de voler, vous volez. Si vous pensez que c'est bénéfique de ne pas voler, vous ne volez pas. Mais ne demandez pas si on a le droit ou si on n'a pas le droit. Il n'y a personne qui va vous donner la permission. Aux yeux de la loi française, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le photocopieur de votre entreprise pour votre bien-être, pour votre usage personnel, aux yeux de la loi française. D'accord ? Et du point de vue de la vertu, si vous utilisez le photocopieur de l'entreprise pour faire des photocopies personnelles, c'est une forme de vol. Vous le savez pas. Et ne demandez pas si vous avez le droit de faire le vol ou pas. Ça ne regarde que vous. C'est vous et votre conscience. Donc si vous voulez avoir une attitude vertueuse, vous n'utilisez pas le photocopieur de l'entreprise pour vos affaires personnelles. C'est pas à moi qu'il faut demander le droit, c'est au propriétaire, c'est chef d'entreprise, le chef de service. Je voudrais faire des photocopies, est-ce que je peux utiliser la photocopie de l'entreprise? Bon, il va peut-être vous donner la permission, si c'est 2-3 photocopies, bon, il va dire d'accord, c'est rien. Si vous savez que vous pouvez le faire, beaucoup d'entreprises, bon, par exemple le téléphone, beaucoup d'entreprises, surtout le personnel d'encadrement, on laisse téléphoner, même pour un usage personnel. Il y a certaines entreprises, aux États-Unis par exemple, où le personnel ne peut pas utiliser le téléphone parce qu'il y a un système de codage, ils sont sur écoute. Aux États-Unis, c'est autorisé. Donc, bon, si votre entreprise dit ben non, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone pour votre usage personnel, vous devez utiliser la cabine. Si vous voulez bien garder vos 5 préceptes, vous utilisez la cabine. Il n'y a pas de raison que l'entreprise paye pour vos communications téléphoniques.
Oui, le message il est bien clair. Donc, dans beaucoup d'entreprises, surtout en France, tout le monde se sert la photocopieuse ou le téléphone.
C'est pour ça que, l'économie en France ne va pas très bien.
Donc,
mais vous ne faites pas comme tout le monde, vous, parce que vous êtes sur la voie qui mène à l'éveil. C'est pas le cas de tout le monde, parce que sinon, on serait rendu compte. Voilà. Alors, vous laissez tout le monde dans la voie qui mène aux renaissances, dans le monde des animaux, des pétards,
oui.
Et vous en prenez la voie qui mène à la libération. Donc, vous commencez déjà par ne pas faire comme tout le monde, surtout.
Voilà, c'est pour cette raison-là, c'est un peu gênant entre deux. Est-ce que je pose, est-ce que je retire? Vous C'est ça dans la vie, aller-retour.
Mais si vous hésitez, dans la mesure où en France tout n'est pas complètement fichu encore, si des fois vous hésitez, vous vous en remettez à ce moment-là au législateur. La loi en France n'est pas si mal faite que ça. Et elle dit que utiliser la photocopie de l'entreprise pour un usage personnel est considéré comme un vol. Si la loi considère que c'est un vol, il y a de fortes chances que ce soit le cas. La loi est assez raisonnable en France. Toujours, mais assez raisonnable. Bon, c'est pas autorisé par la loi. Alors vous vous dites, bon, si c'est pas autorisé par la loi, c'est que c'est peut-être un vol. Voilà. Voilà. Enfin, je dis ça pour c'est valable pour la France. Il y a peut-être des pays, la loi un peu spéciale, mais bon. Il y a dans beaucoup de pays, en particulier les pays que l'on dit être les démocraties, la loi a quand même, dans l'ensemble, elle a quand même une dimension morale. Quand même, hein, hein. Donc on a la chance d'avoir ça. Donc, bon, dans l'ensemble, si vous faites conformément à la loi, vous allez bien. Hein. ça va bien, hein, voilà. Donc faut pas rentrer chez soi avec le stylo bille, les rouleaux de papier toilette, les photocopies.
Oui,
les gens,
Le chef accepte le responsable.
Ah ben si, le responsable, il est d'accord pour dilapider son entreprise et laisser ses salariés partir avec les stylos, bon. Enfin, normalement, vous ne devriez même pas demander. À la limite, vous ne devriez même pas demander. Hein. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a même pas besoin de demander. Quand vous êtes à l'entreprise, vous n'êtes pas chez vous. Hein. Vous faites le travail et puis... on vous donne le salaire pour le travail que vous faites, vous n'avez pas à utiliser bon, les affaires de l'entreprise.
Par exemple, comme mon entreprise a déjà fermé, on liquide tout, les affaires de salaire, on jette.
Ah bon, là c'est
et
différent.
Voilà.
Là c'est différent. Là.
Oui.
C'est liquidé.
Et comme
bon.
Je demandais le chef.
Oui, 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 mais là dans, c'est un cas particulier. Oui, oui, non, c'est un cas particulier, là forcément. Si on liquide, on liquide, on peut en récupérer. Regardez ce qui coûte cher dans notre société. Ce qui coûte le plus cher dans la société, c'est pas la médecine, c'est pas vrai. Ce qui coûte cher, c'est la lutte contre la délinquance, le vol, etc. Ça, ça coûte très cher à la sécurité française. Tout le monde sait que les policiers coûtent plus cher que les médecins. C'est très cher la police. Très très cher. Et toutes les entreprises doivent mettre de plus en plus des caméras, des appareils électroniques. Tout ça à cause du vol. La malhonnêteté, le vol, la tricherie. Ça coûte beaucoup plus cher à la société française que le coût de la médecine, qui est aussi très élevé. C'est très cher à la société humaine, la sécurité. Le premier budget de la nation américaine, c'est la défense. On dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, avec beaucoup de soldats, beaucoup de militaires, pour nous protéger du vol, de l'agressivité, de la haine, etc., etc. Très, 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 très cher. En France, vous allez dans un tribunal, vous allez voir 99% des affaires, c'est des histoires. D'absence de style. Au départ, c'est absence de style. Vous avez beaucoup de cas qui sont des accidents, des litiges, c'est une autre histoire. La majorité des cas, c'est vol, meurtre, crime, etc. Absence de style. C'est terrible. Style, c'est le point de départ. Et vous devez faire ça pour vous. Ce que font les voisins, c'est pas votre affaire, c'est pas important. C'est vrai que Bouddha dit que ceux qui doivent avoir le sila le plus solide, ce sont les dirigeants. Il dit quand on dans un pays, les dirigeants n'ont pas de sila, c'est la catastrophe. Parce que vous demandez, beaucoup de gens, vous leur demandez bon, pourquoi ils utilisent le téléphone à l'entreprise, pourquoi ils prennent le stylo, pourquoi. Ils vous diront, moi je téléphone, c'est 1 euro. Mais le ministre, lui, il se fait loger dans un château pour... à l'œil. Les détournements de fonds des partis politiques sont gigantesques. Les affaires DHLM, les affaires ELF, les affaires ci, les affaires ça. Ils, eux, c'est des sommes énormes qui volent. On est gouverné par des gens qui sont des crapules. Et le peuple, c'est pas une raison pour voler. Mais les gens sont comme ça. Si le peuple sent qu'il a des dirigeants qui sont très honnêtes, très purs, naturellement, il sera plus pur. S'il sent qu'il est dirigé par des gens malhonnêtes, par des malfrats, naturellement, les gens auront tendance à se laisser aller. Bouddha dit que c'est une catastrophe quand un pays est dirigé par des religieux, ça c'est le pire de tout. Et quand il est dirigé par des gens qui n'ont pas de sila. Bon, les religieux n'ont pas de sila, c'est clair, mais même quelqu'un qui n'est pas religieux, s'il n'a pas de sila, c'est catastrophique.
Oh,
il connaît pas, il n'a pas envie. Vous savez, si là, c'est pas la peine d'avoir entendu, c'est pas la peine d'avoir entendu la parole de Bouddha. Mais non, si là, c'est une chose que vous sentez. C'est pas la peine d'avoir entendu Bouddha. Si là, c'est une chose que c'est humain, c'est une chose qu'on sent. Même si vous allez dans la tribu africaine, dans une petite tribu dite primitive, en fait, ils sont pas primitifs du tout. Les tribus en Afrique ou en Amérique latine, je peux vous garantir que dans ces tribus-là, le peu d'objets qu'ils possèdent, ils ne se les voleront pas. Ils ont un sens extrêmement fin du respect de la propriété d'autrui.
Mais justement,
ça c'est une chose qu'on sent, c'est ce qui différencie les humains des animaux. Les humains ont la capacité de sentir, même s'ils n'ont pas entendu parler de Bouddha, ce qui est bénéfique, ce qui est sain, de ce qui est malsain. Ils ont la capacité de sentir cela. Il y a des humains qui n'ont jamais entendu parler de Bouddha, qui vivent au fin fond du web algérien, ou qui vivent peut-être dans un quartier chic de Brooklyn, qui ont un sens naturel assez développé parce qu'il est là. Et vous avez des gens qui sont nés en Cambodge, qui sont nés en Birmanie, qui sont des vrais crapules. Ça, c'est l'humanité, c'est partout pareil. Bouddha dit les animaux font trois choses. Uniquement trois choses. Ils dorment, ils mangent, ils copulent. Il dit les humains font quatre choses. Ils dorment, ils mangent, ils copulent. Et ils ont la capacité de discerner ce qui est bien pour eux. On a ça, les animaux, eux, c'est vraiment. Ils n'ont pas Scylla pour eux, bon, ils savent pas ce que c'est. C'est la seule chose que nous ayons de plus que les animaux. C'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence, c'est le sens. C'est le sens de Scylla. Le sens de la vertu. Oui, c'est l'intelligence, oui. On peut dire que c'est l'intelligence, bien sûr. C'est tout ce qui nous différencie des animaux. C'est pas parce qu'on fait des cathédrales et qu'on fait des avions qu'on est plus intelligent que les animaux. Pas du tout, parce que les animaux aussi font leur cathédrale et font leur font des choses très élaborées. Les abeilles font des choses très élaborées à leur manière. Hein. Pourtant, quand on voit la taille du cerveau, hein, c'est pas ça qui fait que les humains sont plus intelligents que les animaux. C'est que les humains ont la capacité de discerner ce qui est vertueux de ce qui ne l'est pas. C'est la seule différence selon Bouddha. Alors quand vous n'avez pas de vertu, vous vivez exactement comme une chienne. Vous n'êtes pas différent. Quand vous n'avez pas de Scylla, vous êtes comme un animal. Bouddha a dit que les humains qui n'ont pas de Scylla sont comme des animaux. Ils dorment, ils mangent, ils copulent. Voilà la vie d'un humain. La vie de 99% de l'humanité, ça ne va pas plus loin. C'est fou, hein. Ce qui nous élève au rang d'humain, c'est Scylla. Si vous avez Scylla, vous êtes vraiment digne d'être un humain. Sinon, vous êtes comme les animaux. Pareil, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Avec les rats, les chats, les chiens, les oiseaux.
Et une autre question. Par exemple, dans le magasin, si on rend le monnaie plus, on peut garder ou...
Ça, c'est à vous à réfléchir. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire. Hein. Moi, normalement, je n'utilise pas d'argent, vous savez, moi.
Il faut la rendre.
Hein. Bah, si, bien sûr, si quelqu'un se trompe.
Ça m'arrive 3-4
fois. Ah, bah, alors là, si ça vous arrive souvent, il faut prévenir le patron. Hein. C'est que la caissière fait mal son travail parce qu'elle va ruiner son entreprise.
Au marché couvert, une fois, on m'a rendu plus 100 francs. Ah, oui. Et après, il y a encore.
Si vous êtes honnête, il me semble, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais petit, quand on nous donnait à l'époque, encore à l'époque, oui. En France, vous dites que les Français ne connaissent pas si là mon œil. Quand j'étais petit, nous avions des cours de ce que l'on appelait la conscience.
Exactement.
Des cours de morale.
Et
ça n'a rien à voir avec Jésus, avec l'Église. Hein. Non, c'était des cours de morale. On nous apprenait, quand on était petit, je me souviens encore, ça m'a marqué, j'étais vraiment pas grand. Hein. J'étais vraiment petit. Eh non, c'était malheureusement, ça n'existait plus déjà. Je me rappelle une fois l'instituteur qui nous disait, voilà, quand un enfant frappe avec un bâton sur une tortue, je me rappelle encore l'exemple qu'il avait choisi. Les enfants adorent taper des bâtons sur les tortues parce que ça leur fait pas mal et puis ça fait du bruit. Et il nous disait, quand on frappe un animal comme ça, j'aimais bien l'explication que nous avait donnée l'instituteur dans une école publique, donc pas un religieux. Il nous disait, c'est une question de conscience. Vous le sentez que ce que vous faites, c'est pas bien. Il n'a pas dit, c'est petit Jésus, c'est le péché. Dieu merci, je n'ai pas été élevé comme ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous avez la conscience. Je me rappelle encore, ce cours, c'était sur la conscience. C'est ça qu'on appelle avoir une conscience, il disait. Quand vous volez, vous savez, vous sentez que ce que vous avez fait, c'est mal. Si vous avez ça, vous êtes... Bon, lui, il emploie le mot conscience, nous, on emploie le mot Scylla. C'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec Bouddha, ça. Vous le sentez ou vous ne le sentez pas. Et quand j'étais petit, on avait les leçons de morale, on avait les leçons de choses. Maintenant, c'est fini. Maintenant, toute la petite jeunesse, là, c'est toute la petite jeunesse qui fait que des bêtises, qui n'a plus aucun sens, qui n'a plus de conscience. Voilà. Ça, c'est très important. C'est ce qui différencie les humains des animaux. De plus en plus maintenant, les humains, la jeune génération, de plus en plus, grandit comme des animaux. Mm-hmm. Animaux. Mammifères.
Ouais.
Animaux.
Comme des bêtes.
Comme des bêtes. Ils sont tout mignons, ils sont bien habillés, ils ont le dernier téléphone cellulaire à la mode, mais ce sont des chimpanzés. Mm-hmm. Ce sont des chimpanzés. chimpanzé ne pourra jamais utiliser un téléphone cellulaire. On est d'accord. Mais c'est pas parce que les humains peuvent utiliser un téléphone cellulaire qu'ils sont différents du chimpanzé. Non, c'est parce que les humains ont une conscience. Ils ont cela. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de comprendre ce qui est sain, ce qui est sage, de ce qui est malsain. Et ça, le chimpanzé, il n'aura jamais ce sens-là. Ce n'est pas le téléphone cellulaire qui va nous aider à ça.
Et à la semaine après, je vais la rendre sans francs.
Oui, vous allez rendre la monnaie.
Et tout le monde me dit pourquoi.
Alors là, évidemment, si vous faites ça, les gens vont dire, mais elle est folle.
Oui, c'est vrai.
Non, il y a des gens qui vont vous admirer. Il y a toujours une ou deux personnes qui vont vous admirer dans le temps. Il y en a quelques-unes qui vont dire, elle est dingue. Mais il y en a quelques-unes qui vont dire, mais elle est formidable, cette femme.
Et après, le relais aussi, il m'a rendu monnaie plus 50 francs. Et après, ma copine m'a dit, tu es folle, il ne faut pas donner. Si tu ne veux pas, tu me donnes. Tu me donnes. Elle m'a dit, non, c'est pas comme ça. Et après, il m'a dit, il a raison aussi, je dis comme ça. Si tu donnes, c'est la vendeur qui l'a pris, ce n'est pas le patron qui l'a pris. Et moi, c'est pas tranquille, moi je donne quand même.
Surtout que il faut savoir une chose, il est très important que vous sachiez une chose, dans beaucoup de grandes surfaces, de magasins, quand une vendeuse ou un vendeur, enfin, caissier fait une erreur de caisse, c'est de sa poche.
C'est ça.
Oui, c'est ça. C'est une aberration, quand ça fait partie des aberrations de. Il y a des aberrations dans la loi française, hein, quand même, il y en a beaucoup. Je ne sais même pas si c'est une loi, mais en tout cas c'est un usage, c'est de sa poche.
Ça limite les vols, ça limite les abus.
Au départ, c'était le but de l'opération. C'est parce qu'ils se disaient, s'il manque de l'argent dans la caisse, c'est probablement que le caissier l'a volé.
Bah oui.
Et malheureusement, quand un caissier fait une erreur de caisse, alors tous les caissiers de France et de Navarre connaissent le truc. J'ai été caissier, je le sais. Et on se fait une réserve. On triche avec le compte. C'est pas pour voler de l'argent, parce qu'on ne le prend pas l'argent pour se le mettre dans la poche. Encore que moi, si. Mais dans ce cas, c'était pour le but. En général, si. Mais si vous voulez, ce qu'on fait, c'est comme tous les gens qui travaillent dans les bars, les cafés, tout ça. Tous ont un double compte, une caisse noire. Bon, c'est d'une part pour voler, mais l'autre part, c'est pour arriver à la fin de la journée, quand il fait le compte. Si jamais, pour des raisons d'erreur, mais des erreurs tout à fait involontaires, il manque des sous, il peut les remettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le système, quelque part, force un petit peu aussi des gens à commettre des vols. C'est un peu paradoxal. Mais parce que les gens commettent des vols, le système va devenir de plus en plus strict, et parce qu'il va devenir de plus en plus strict, il va de plus en plus forcer les gens à être malhonnêtes. C'est paradoxal, hein, c'est un enchaînement comme ça. C'est un enchaînement. Mais ce qui est important, c'est que vous restiez intègre dans ce monde fou, et puis si votre activité professionnelle est vraiment devient impossible, et ben, il va falloir envisager de prendre de grandes décisions. Si vous ne pouvez plus dans l'entreprise où vous travaillez, gardez votre dignité. Il faut voir après ce qui est le plus important pour vous.
Oui, je suis content de moi-même aussi. Parce que tout le monde prend pour les affaires et il me demande, je suis comment. Même tu ne prends pas le patron, ça a déjà payé tout ça.
Oui, c'est le raisonnement classique. On prend aux riches. De toute façon, ils ont assez de fric comme ça. Ils ont déclaré des milliards de bénéfices. C'est pas un stylo à un euro qui va. Ouais, je connais le truc. Non, mais je connais. J'ai fait, j'ai donné.
Et quand le chef n'a pas moi je prends.
Et surtout quand on sait que dans une entreprise, les plus gros voleurs sont les dirigeants. Parce que si tous les employés prennent des stylos. Utilisent le téléphone et les photocopieurs, alors qu'est-ce qu'ils font à l'étage au-dessus? On n'ose pas imaginer ce que ça doit être, des transactions pas possibles.
Comme ça.
Pas tous, attention, pas tous. Loin de là. Loin de là. Il y a des gens très honnêtes, très intègres, y compris parmi les chefs. Il y en a. Enfin, c'est comme ça. C'est des habitudes. Et puis ça, c'est des habitudes qui s'installent. Et puis après, c'est tout le monde. Après, tout le monde, à tous les niveaux, du président de la République, qui lui, alors, il est saturé, galé, lui. Des casseroles, mais il sait plus, il en a tellement de casseroles qu'il ne peut plus se déplacer. À la femme de ménage, au chômeur, en passant par toutes les strates de la société, vous avez une grande, grande majorité de gens qui trichent, qui ne sont pas des gens mauvais. Il ne faut pas dire que parce que quelqu'un vole, c'est quelqu'un de mauvais. Simplement, c'est quelqu'un qui vole. Le vol est mauvais, peut-être pas nécessairement la personne, parce qu'il y a tout l'environnement, tout le monde vous encourage. Il y a beaucoup de choses qui font que... dans un contexte différent, je suis persuadé que beaucoup, beaucoup de gens qui pratiquent régulièrement la triche ou le vol, dans un contexte différent, ces mêmes personnes ne voleraient pas.
Évidemment.
J'en suis persuadé. Oh, je suis persuadé. Pourquoi est-ce qu'en Suisse, il n'y a pas de coulage dans les entreprises? C'est quand même bizarre. Ils ne sont pas différents de nous, les Suisses. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a du coulage dans les entreprises?
Il n'y a pas trop en Suisse.
Ah non. En Suisse, c'est autre chose. Il y en a
certainement aussi.
Il y en a certainement aussi. Non, 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 non. En Suisse, le problème du coulage en entreprise est vraiment marginal. Hein. Ça se passe à un autre niveau. Hein. Oui, non, non, mais je ne parle pas de ces choses-là. Je parle vraiment de l'employé de base. En Suisse, un employé de base ne rentre pas chez lui avec un stylo dans la poche. Non, non, ça, j'ai travaillé en Suisse et non, non, non. Là, j'ai vu, c'est, il y a une santé. Ouf. Dans le monde de l'entreprise, une santé. Enfin, je parle de ça, c'était il y a 15 ans.
Je voudrais leur dire quand même que moi, quand j'ai commencé à travailler, si on volait un crayon, on se faisait vider. Donc, il y a eu un changement de société, mais la France n'a pas toujours été comme ça.
Oui, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu en France une période...
Un changement de société qui est énorme, bon, et puis on ne serait pas permis, mais c'était ainsi.
Mais le problème, c'est que dans la France, dans cette France, justement, qui se voulait plus morale des années 60, malheureusement, le moral était mélangé à cette espèce de pensée quand même un peu pensée religieuse, quoi. Il y a un peu ce côté... je crois que la révolte aujourd'hui des immorales des gens est accompagnée d'une révolte anticléricale aussi, malheureusement.
Je crois pas, parce que le clergé...
Mais c'est un signe des temps, c'est un signe des temps, c'est vrai.
C'est parce que le clergé, il y a longtemps qu'il n'est plus tout aussi vieux.
Il était encore plus influent il y a 30-40 ans, je pense. Maintenant, c'est vrai qu'il fait plus rire. Il est en train de finir de se désintégrer, d'ailleurs.
Qu'avoir
aux États-Unis, ils sont finis, là.
Ouais.
Mais je sais pas. Si ça va ensemble, je sais pas trop. Je sais pas. Non, je crois que...
Dans ma jeunesse, j'ai connu une très grande rigueur partout. Et quand quelqu'un avait, par exemple, une voiture de service, parce qu'à l'époque, on était pauvres, la famille, elle la partageait pas.
Non. On l'utilisait pas. Non.
Jamais utilisé une voiture.
Ben, les Suisses en sont encore là.
Ils marchaient à pied, nous.
Plus que nous, en tout cas. Les Suisses en sont encore là. On n'utilisait pas les biens de l'entreprise ou de l'administration pour en faire profiter la famille. À ce niveau-là, je crois que les Nordiques, peut-être, sont un petit peu mieux que nous sur ce point. Mais le plus important, c'est ce que vous faites vous, même si tout le monde autour de vous vole, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose.
C'est ça le problème, l'influence de son entourage est énorme.
Si vous avez envie vous d'arriver à Nibbana, il ne faut pas faire comme tout le monde, parce qu'eux n'ont pas envie d'aller à Nibbana. Ils n'ont pas envie du tout. Donc il ne faut pas faire comme eux. Ce qui est important, c'est ce que vous faites vous.
Ils ont bien aimé son bien.
Justement, est-ce que vous pourriez expliquer le fait de le voir ne change pas le monde, mais change l'expérience qu'on a du monde.
Vous voulez dire le fait d'avoir fait l'expérience de Nibbana, en fait, l'expérience de l'éveil.
Oui, le fait que ça ne change pas le monde, mais ça change l'expérience qu'on fait du monde.
Bah oui, bien sûr. Oui. Exactement de la même manière que. Si vous avez vécu pendant des années avec un cancer et puis qu'après le cancer a été guéri, le monde n'a pas changé, mais votre vie a considérablement changé. Hein. Donc de la même manière, quand on a évacué des grosses saletés qu'on avait devant les yeux, quelqu'un qui avait grosse cataracte, qui ne voyait plus, on lui a fait l'opération, il revoit, ben, le monde n'a pas changé, hein, mais lui, sa vie a changé. Donc de la même manière, quand vous avez fait l'expérience de l'éveil, de la cessation, et du réveil, le monde continue. Hein. C'est un ensemble de phénomènes qui s'enchaînent, qui se succèdent. Mais votre monde a radicalement changé. C'est votre vie qui a changé. Parce que vous avez guéri, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Enfin, si vous avez fait une psychothérapie, vous avez vécu cette expérience particulière de la psychothérapie, ou analyse, ou quelque chose comme ça. Enfin, si, je ne pose pas la question, ça ne me regarde pas. Si vous avez fait l'expérience de la psychothérapie, et qu'elle a été un succès, Vous avez vécu ce déclic que vivent tous ceux qui suivent une thérapie, plus ou moins grand, plus ou moins manifeste, plus ou moins profond, où vous avez l'impression qu'on vous a débouché un nerf, quoi. Parce qu'on a débouché quelque chose, et pourtant rien n'a changé. L'expérience de Nibbana, lorsque vous avez fait l'expérience de Nibbana, il y a des modes de fonctionnement du mental qui n'apparaissent plus jamais. Et si vous avez fait cette expérience plusieurs fois, vous avez de ce fait atteint un stade supérieur de finesse, de raffinement, un stade supérieur d'éveil, on appelle une voie, un chemin supérieur, vous avez éliminé le désir, par exemple, totalement, l'envie, vous avez éliminé totalement la colère, l'agressivité, c'est des choses qui n'apparaîtront plus.
C'est super ça.
Mais le monde n'a pas changé.